Donc séance du jeudi 3 octobre 2024, deuxième séance de l'année, mais première séance consacrée à la question de la liberté. Alors cette première séance sera avant tout destinée à présenter la question, en quelque sorte à déblayer le terrain, pour que les choses soient plus claires, hein, quitte à approfondir ensuite, bien sûr, avec la lecture des philosophes, certains points qui seront aujourd'hui présentés. Alors, il s'agira d'abord de dégager les différentes significations du terme de liberté, politique, juridique, métaphysique, et d'en montrer l'articulation. Et pour cela, je m'aiderai surtout d'un texte, du texte d'un philosophe du début du XVIIIe siècle, premier grand philosophe allemand d'ailleurs à écrire en allemand, Leibniz, qui est extrait des Nouveaux Essais sur l'entendement humain, œuvre écrite en 1704, mais publiée très tardivement, bien après sa mort, la première fois, en 1765. Alors, pourquoi Nouveaux Essais sur l'entendement humain ? Parce que c'est une réponse, en fait, aux Essais sur l'entendement humain d'un autre philosophe, cette fois-ci anglais, qui était John Locke. Alors, l'analyse des significations du terme de liberté nous conduira à formuler le premier problème qui va se poser, c'est-à-dire le problème métaphysique de la liberté. Et quel est ce problème ? Eh bien, c'est celui de savoir s'il y a ou non en l'homme une liberté de sa volonté. C'est ça le problème métaphysique de la liberté. Et à ce problème, on verra très vite, bien sûr, qu'il y a deux solutions, deux réponses opposées qui sont inconciliables. Comme on va le voir, il y a d'abord celle qui affirme l'existence d'un libre arbitre, selon laquelle l'homme dispose de la capacité de se déterminer par le seul pouvoir de sa volonté. Et puis, à l'opposé, vous avez la thèse du déterminisme universel, selon laquelle tout ce qui existe, tout ce qui se produit, s'explique selon un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Et sans exception. Donc, il nous faudra présenter chacune de ces thèses pour en prendre la mesure, en quelque sorte. Et puis, ensuite, on pourra voir que le problème de la liberté ouvre sur trois types d'enjeux. Je les présente. Le premier type d'enjeu concerne l'éthique, ou ce qu'on pourrait appeler le domaine des jugements de valeur, c'est-à-dire ceux que l'on prononce sur le plan moral, sur le plan juridique, sur le plan politique. Et si à la question « y a-t-il ou non une liberté de la volonté humaine ?», la réponse est non, c'est-à-dire si la réponse est celle du déterminisme universel, alors, à ce moment-là, à quoi bon reprocher à un homme sa conduite en la jugeant mauvaise, en la jugeant immorale, puisqu'il n'a pas le choix de sa conduite? À quoi bon tenir juridiquement un homme pour responsable de ses actes s'il est avéré qu'il ne pouvait pas agir autrement qu'il n'a fait? Et voyez-vous, ici, bon, c'est facile à saisir, c'est facile à comprendre. Seul le présupposé de la liberté de la volonté humaine peut fonder l'imputation de responsabilité et légitimer un jugement moral à l'endroit d'une personne dont on considère qu'elle a bien ou mal agi. Voilà, ça c'est le premier type d'enjeu. Et c'est peut-être le plus important, si vous voulez. Hein. Vous voyez, la question de la responsabilité, ici, dépend hein, de la réponse qu'on donne à la question « Y a-t-il ou non une liberté de la volonté ?» Le deuxième type d'enjeu concerne la représentation même que l'on a de l'être humain, la représentation de l'être humain quant à la place qui est la sienne dans la nature. Est-ce qu'il est soumis aux mêmes lois que les autres êtres naturels? Ou est-ce qu'il fait exception? Vous comprenez que la thèse du déterminisme universel montre que l'homme est un être comme les autres. Il est soumis, comme les autres, aux lois de la nature. Et en revanche, si vous affirmez la liberté de la volonté humaine, bah, considérez que l'homme est une exception. Les actes humains, ne sont-ils que des phénomènes, comme les autres, relevant du même déterminisme, selon lequel les causes et les effets s'enchaînent nécessairement? Ou bien, ces actes sont-ils en rupture, de quelque manière, avec les lois de la nature? Est-ce qu'ils font surgir une autre dimension de la réalité? Si vous acceptez, si vous considérez qu'il y a un libre arbitre humain, vous êtes amené à considérer, au fond, qu'il y a un ordre humain distinct de l'ordre de la nature. En bref, je reprends, l'homme déroge-t-il aux lois de la nature par son libre arbitre, s'il en a un, serait-il une exception par rapport au reste de la nature? Ça, c'est le deuxième type d'enjeu. Et puis le troisième, que je caractériserai d'ordre épistémique, ça veut dire il concerne la question de la connaissance, et cet enjeu va se greffer sur le précédent, c'est le suivant. L'affirmation d'un libre arbitre, donc d'une liberté de la volonté, ne revient-elle pas à interdire tout projet d'une connaissance de l'homme? En effet, si vous partez du principe que l'homme est fondamentalement libre, que sa volonté est libre, cela signifie que son comportement est imprévisible. Il peut toujours agir autrement, hein, en tout cas sa conduite est, comme on dirait, contingente. Il pourrait toujours agir autrement qu'il n'a fait. Et alors à ce moment-là, qu'en est-il de ces sciences qui ont émergé à partir du 19e siècle, qu'on appelle les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, l'ethnologie, mais aussi la psychologie, etc., etc. Qu'en est-il de ces sciences qui s'attachent à étudier les productions de l'humanité dans toute leur diversité, c'est-à-dire j'entends par là qu'il y a plusieurs sortes de productions humaines, artistiques, institutionnelles, etc., etc., et production de l'humanité dans toute sa diversité, puisque effectivement il y a plusieurs cultures, plusieurs manières d'être. Bon. Est-ce que ces sciences sont différentes des sciences de la nature, comme la physique, comme la chimie? Et vous savez que ces sciences mettent en évidence, dans l'ensemble des phénomènes naturels qu'elles considèrent, elles mettent en évidence l'existence de relations constantes et nécessaires que l'on appelle des lois. En science, hein, on parle de lois, les lois scientifiques, les lois de la nature, qui sont des relations constantes et nécessaires entre des phénomènes. On parle ainsi, bah c'est le premier d'ailleurs à parler comme ça. Vous savez que la physique moderne commence au XVIIe siècle avec Galilée, l'inventeur de la loi de la chute des corps. Puis après, vous aurez Newton, etc. Et on parle ici de la loi de la chute des corps, Cette loi, elle exprime mathématiquement le rapport constant et nécessaire entre des variables qui sont la masse d'un corps et sa vitesse. Les variables, elles bougent, elles changent, évidemment, selon les configurations, selon le type de corps. Mais ce qui est constant, c'est la relation entre les variables et qui peut s'exprimer mathématiquement. C'est-à-dire qu'ainsi, les mathématiques servent d'instrument à la physique. Vous voyez ? Bon. Alors, on parle ensuite de la loi de la gravitation universelle, on va parler de la loi de dilatation des métaux, etc. Enfin, vous voyez, les sciences que sont les sciences de la nature, physique et chimie, formulent donc des lois. Et on remarquera tout de suite que ces lois scientifiques sont de l'ordre de la nécessité. Elles expriment une nécessité. C'est-à-dire que ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Eh bien ici, ce sont des lois auxquelles il est impossible de se soustraire. Si je me jette du troisième étage, je tomberai nécessairement. Je ne peux pas transgresser ce genre de loi. Vous voyez ? Donc, et c'est là l'occasion de dire tout de suite que vous avez aussi le même terme, le terme de loi, qui sert à désigner les lois instituées par les hommes. Or, ce n'est pas le même sens. Ce n'est pas le même sens. Vous savez que les lois instituées, d'ailleurs c'est le premier sens, c'est les lois instituées par les hommes, hein, d'abord. Et si on a parlé de loi de la nature, c'est parce qu'on a considéré que Dieu était celui qui avait institué, finalement, ces lois. Hein. Bon, c'est par métaphore qu'on a parlé de loi de la nature. Mais vous savez bien que les lois de la nature ne sont pas de même type que les lois que les hommes instituent. Les lois que les hommes instituent, ce sont des commandements. Ce sont des commandements ordonnés par des volontés à d'autres volontés. Et pour les caractériser, on ne dira pas qu'il y a nécessité, on dira qu'il y a obligation. Vous voyez ? Une obligation, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. À une obligation, il est toujours possible de désobéir. Je peux transgresser une loi humaine. Évidemment, je risque d'être puni pour cette transgression. Et d'ailleurs, on me jugera si il est établi que je suis responsable de cette transgression. Donc, vous voyez, ici, ce sont des choses qu'il faut bien avoir en tête et ne pas tout confondre. Et justement, puisque nous étudions cette année l'esprit des lois de Montesquieu, est-ce qu'il n'est pas possible, comme le montre Montesquieu au début de l'esprit des lois, dans sa préface notamment, est-ce qu'il n'est pas possible, comme il l'envisage, d'expliquer à la manière d'un physicien, est-ce qu'il n'est pas possible d'expliquer la diversité des lois instituées par les hommes en les rapportant à des causes, à des facteurs comme le climat, la géographie de la nation, l'économie de cette nation, et puis d'autres facteurs encore. Voyez ce que fait Montesquieu. Il s'inspire de la démarche du physicien pour rendre compte de la diversité des lois humaines. C'est-à-dire, en fond, est-ce qu'il n'est pas possible de dégager les lois au sens scientifique du terme ? Est-ce qu'il n'est pas possible de dégager les lois au sens scientifique du terme qui permettront de rendre compte des lois au sens où ici on parle des obligations qui sont instituées par les hommes dans les diverses sociétés où ils vivent ? Vous voyez ? Est-ce qu'il n'est pas possible, au fond, de dégager les lois des lois ? Les lois, vous voyez, mais le mot n'a pas le même sens, hein, dans les deux cas. Et donc, vous voyez, je profite de l'occasion, ce soir, pour montrer comment la réflexion de Montesquieu s'inscrit pleinement dans le questionnement que nous présentons. Bon, tels sont donc les problèmes, tel est le problème, surtout, donc, qu'on va devoir aujourd'hui se poser, et les enjeux sur lesquels il ouvre. Mais commençons, comme je l'ai dit, par dégager les différentes significations du terme de liberté. Alors, c'est nécessaire pour y voir clair. Le terme de liberté est équivoque. Il peut signifier beaucoup de choses. Il peut s'employer dans des sens très différents. Et dans ce buisson, en quelque sorte, de sens, on peut toutefois distinguer deux grands usages différents de ce terme. Alors, pour les présenter, dans un premier sens, il désigne, comme on va le voir, un statut, une condition objective, je vais expliquer, et puis dans un second sens, mais qui apparaîtra au cours de notre enquête, dans un second sens, il désigne une propriété, la propriété justement de la volonté, où il est censé désigner la propriété de la volonté, la propriété qui est constitutive de la volonté, c'est-à-dire au fond le fait qu'elle est un pouvoir, hein, un pouvoir effectivement de se déterminer, hein, et qu'on appelle le libre arbitre. Vous voyez, il y a un sens d'abord politique, ensuite un sens métaphysique. Bon. Mais le mot a d'abord un sens politique. Et dans l'Antiquité, vous le savez, il désigne, à une époque où l'esclavage était monnaie courante, il désigne l'état de celui qui ne dépend d'aucun maître. Vous voyez, c'est ça d'abord la liberté. C'est l'état, c'est la condition, c'est le statut de celui qui ne dépend d'aucun maître et qui, à partir de là, a droit de cité et jouit de droits politiques. C'est-à-dire qu'au fond, au départ, l'homme libre, c'est le citoyen. Mais tous les hommes ne sont pas les citoyens. Tous les hommes ne sont pas les citoyens, ni les esclaves, ni les métèques. On appelle ainsi les métèques les étrangers qui sont installés dans la cité. On dirait aujourd'hui les immigrés. Eh bien, ni les esclaves, ni les métèques ne se voient reconnaître la citoyenneté. Alors, vous pourriez me poser la question, et les femmes ? Alors, Aristote précise, dans la cité, les femmes sont libres, mais inférieures tout de même. Hein, inférieures. Mais ce n'est pas le cas des cités barbares, où là, la femme est assimilée à un esclave. Donc, il y a tout de même, vous voyez, une reconnaissance de la liberté de la femme. Quand elle n'est pas asservie, quand elle n'est pas esclave. Bon, mais dès lors que les hommes, sans exception cette fois, sont déclarés et reconnus égaux naturellement, comme le stipule, disons, au XVIIe siècle, les philosophes du droit naturel, bon, ils reconnaissent que les hommes sont égaux naturellement. On parle d'égalité naturelle des hommes. À partir de ce moment-là, oui, c'est vrai, l'esclavage devient illégitime. L'esclavage apparaît illégitime. Mais attention, c'est pas si simple. Au mieux, tout de même, au mieux, il procède d'un consentement. C'est-à-dire qu'on admet qu'un homme puisse consentir à être esclave en échange de sa sécurité, un contrat par lequel, au fond, il renonce à sa liberté, hein, servir un maître, mais en échange, il reçoit quelque chose. C'est envisagé. Au pire, bien sûr, mais c'est ainsi que, de plus en plus, bien sûr, la notion va être envisagée, au pire, l'esclavage résulte d'une domination violente, totalement illégitime. Puisque là, il y a violation, effectivement, d'égalité naturelle, de la liberté naturelle. Mais ce qui est sûr, c'est que, à l'ère moderne, il ne peut plus être question de justifier l'autorité naturelle d'un maître sur son esclave. L'idée d'une autorité naturelle d'un homme sur un autre est rejetée. À partir de là, la notion d'esclavage va s'étendre au-delà de la relation civile du maître avec son esclave, et elle va de plus en plus désigner la relation politique d'un despote au peuple qui l'opprime. Vous voyez, la notion d'esclavage s'étend. Elle va avoir une extension politique. On va dire d'un peuple qui est opprimé qu'il est esclave. Esclave d'un despote, d'un tyran. Vous voyez ? On va parler de servitude d'un peuple. Vous voyez ? Mais c'est par une sorte d'extension, si vous voulez, que cela se produit. Est esclave, à ce moment-là, tout homme ou tout peuple, en général, qui se trouve opprimé, qui se trouve contraint d'exécuter la volonté d'un tyran. Et à ce moment-là, la liberté devient une revendication qui est à la fois individuelle et collective. Elle est la légitime ambition, elle est au fond la valeur sacrée proclamée par tout peuple qui ne veut se soumettre qu'au gouvernement qu'il reconnaît comme le sien. Par tout peuple qui distingue ainsi l'obéissance de l'asservissement. Vous voyez, il y a une différence, on va faire une différence entre l'obéissance à un maître, qui est de l'ordre de la servitude, et puis l'obéissance effectivement à un pouvoir politique que l'on reconnaît, que l'on a élu, etc., et là qui paraît légitime. Mais on distingue à ce moment-là obéissance et asservissement, très clairement. Obéir, c'est être libre, en fait. C'est être libre, puisque c'est accepter d'être gouverné par les gouvernants que l'on s'est donné. Et c'est cette liberté, dans le principe, hein, je dis, c'est cette liberté que chante le poète Éluard en 1942, très célèbre poème, face à l'occupation nazie. Alors, vous connaissez sans doute ce fameux poème. Je cite la première strophe, et puis la strophe finale. Vous savez bien, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et la neige, j'écris ton nom. Et jusqu'au bout du poème, on ne saura pas quel est ce nom. On l'attend. Et ça se termine ainsi. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Je suis né pour te connaître, parce que les hommes sont, d'après l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils naissent libres et égaux en droit. Ça, enfin. Hein. La vocation de l'homme, c'est la liberté. Et voyez que le mot liberté vient à la fin. On l'attend. Et il est énoncé seulement à la fin. Donc vous voyez que le premier sens du mot liberté, sens politique, va conduire à se demander... À quelles conditions une liberté politique peut être assurée ? À quelles conditions une liberté politique peut être assurée ? Et par conséquent, ce premier sens conduit à mettre en relation la liberté et la société, la liberté et le droit. Et on va mettre en relation la liberté et la société. Et dès lors, c'est très important... La liberté se différencie tout autant de deux autres notions qui lui sont voisines et avec lesquelles on est tenté de la confondre. Ces notions, ce sont les notions d'indépendance et de licence. Eh bien, on va montrer que la liberté, ce n'est ni l'indépendance ni la licence. Alors, j'explique. L'indépendance... désigne l'état de celui qui vit en dehors de la société. Et bien, comme il vit en dehors de la société, il n'a à rendre compte de ses actes à personne. La licence désigne la conduite de celui qui, en société, refuse toute limite et se comporte comme s'il était tout seul. C'est ça la licence. Et comme la licence met en danger le lien social, eh bien, on comprend très vite que la liberté politique a besoin de limites. elle a besoin de limites. Et elle suppose en conséquence une définition des justes limites. On va réfléchir sur les justes limites qu'il convient d'instituer. Pour le dire autrement, la liberté politique pose le problème de la loi. Et ce problème, c'est celui de savoir de quel genre de loi, de quel mode de décision et d'application de la loi, de quelle organisation des pouvoirs on a besoin pour que la liberté devienne une réalité et ne reste pas une vaine aspiration. Et cette réflexion, c'est celle de la philosophie politique. Et là, c'est un grand chapitre qu'on abordera, forcément. Vous voyez ? Quel type de loi ? Et comment l'instituer ? Et qui va l'instituer ? Et comment elle va être appliquée ? Voilà les questions qu'on se posera. Et la philosophie politique, eh bien, c'est l'affaire de Montesquieu dans l'Esprit des lois, ou celle de Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social, pour ne citer que ces deux noms. Il y en a d'autres, bien sûr. Et sous le règne de la loi, eh bien, l'État, on entend par là l'organisation du pouvoir politique qui est instituée, eh bien, sous le règne de la loi, l'État est un État de droit. C'est un État de droit. Et la liberté politique se décline alors sous l'autorité de l'État. Elle se décline pour l'individu en plusieurs libertés qui sont protégées et qui sont garanties par le droit. Je ne vais pas toutes les citer, j'en citerai seulement quelques-unes, mais ça, vous le savez tous. La liberté de circulation, c'est-à-dire la liberté d'aller et venir, c'est un droit qui est violé lorsqu'un individu se trouve séquestré par un autre individu. Mais la privation de ce droit peut résulter aussi de la sanction qui lui est appliquée après qu'il a été jugé, après qu'il a été reconnu coupable d'un délit ou d'un crime, quand il a désobéi à la loi. Il est emprisonné. Je citerai encore, bon, parce que c'est évidemment à celle-là qu'on pense aussi beaucoup, la liberté d'expression, toujours menacée par l'intolérance. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de parler seulement chez soi, en privé. C'est la liberté d'exprimer publiquement des opinions religieuses ou politiques sans être censuré ni persécuté. Et même si elle déplaise au gouvernement. Alors, pour résumer ce propos, on peut reprendre la définition que Montesquieu, je vais le citer beaucoup, hein, parce qu'après tout, citons-le, Montesquieu, donc la définition que Montesquieu donnera de la liberté politique au chapitre 3 du livre 11 de l'Esprit des lois, où il dit très simplement que la liberté politique, c'est le droit de faire tout ce que les lois permettent. C'est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Au fond, le citoyen est libre dans la mesure où il peut faire, sans être inquiété, tout ce que les lois permettent. Elle est donc le droit de faire tout ce qui est autorisé, tout ce qu'on est autorisé à faire et qui n'est pas interdit par la loi, sans craindre d'être menacé, sans craindre d'être opprimé. Bon, mais tout cela, vous voyez, je pense que vous le savez. Mais quels que soient les droits qui à la fois délimitent et garantissent mes libertés en société, je peux être entravé dans ma capacité d'action, par une maladie, par une paralysie, ou même tout simplement, je peux être bloqué par une impossibilité matérielle. Par exemple, j'ai trop peu d'argent pour effectuer un voyage, pour me déplacer. Alors, et cette fois-ci, il ne s'agit plus d'examiner ce qu'un homme est autorisé à faire par la loi. Cette fois-ci, il s'agira de prendre en considération le pouvoir effectif qui est le sien, c'est-à-dire au fond la puissance dont il dispose, les moyens qu'il a pour parvenir à faire ce qu'il veut. Vous voyez ? Le pouvoir effectif dont il dispose pour faire ce qu'il veut. Et c'est en ce sens que le philosophe Leibniz donne ses dates de naissance et de mort, 1646-1716, né à Hanovre, en Allemagne, premier grand philosophe allemand. Eh bien, il écrit en latin, en français et en allemand. Eh bien, ce grand philosophe Leibniz, grand mathématicien, eh bien, c'est en ce sens que ce philosophe distingue, dans le premier texte que j'ai photocopié, c'est-à-dire au paragraphe 8 du chapitre 21 du livre 2 de ses nouveaux essais sur l'entendement humain, c'est en ce sens que Leibniz distingue la liberté de droit de la liberté de fait. Et évidemment, vous allez voir, c'est facile à comprendre, une distinction que chacun fait, mais au moins, si vous voulez, il nous mâche le travail, en quelque sorte, il nous permet d'avoir les idées claires. Alors, pour présenter un peu le texte, je dirais qu'il est écrit sous la forme d'un dialogue et qui met en scène deux personnages. Si vous cherchez les prénoms, vous en aurez là. Philatète et Théophile. Alors, Philatète, c'est un peu le porte-parole du philosophe anglais John Locke, qui a écrit des essais sur l'entendement humain. Et puis, Théophile, c'est plutôt le porte-parole de Leibniz. Pas compliqué, on comprend. Ça, au fond, c'est un texte, si vous voulez, où Leibniz discute, au fond, la thèse de Locke, discute avec lui. Mais malheureusement, Locke mourra avant que Leibniz ait terminé son ouvrage et ne connaîtra pas l'ouvrage de Leibniz. Alors, disons le début. Les trois premières lignes du texte. Le terme de liberté est fort ambigu. Il y a liberté de droit et liberté de fait. Suivant celle de droit, un esclave n'est point libre, un sujet n'est pas entièrement libre, mais un pauvre est aussi libre qu'un riche. J'arrête là. Alors, une petite précision. Sachez qu'au début du XVIIIe siècle, où écrit Leibniz, c'est encore le droit qui définit le statut de la liberté et de l'esclavage. C'est encore le droit qui définit le statut de l'homme libre et celle de l'esclave. Et on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien considérer, comme les philosophes du droit naturel de l'époque, que les hommes sont libres et égaux naturellement, et admettre, comme c'était le cas dans plusieurs États européens, sur le plan institutionnel, que les êtres humains ne sont pas tous juridiquement dans une condition de liberté. Et c'est ainsi que, juridiquement, comme l'écrit Leibniz, un esclave n'est point libre, il est entièrement soumis à son maître, et un sujet, lui, n'est pas entièrement libre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? C'est l'homme qui dépend de son seigneur, voyez, et le seigneur lui reconnaît quelques libertés. Bon, sa condition est meilleure que celle de l'esclave. Bon, ceci étant dit, que veut montrer Leibniz en évoquant le cas d'un pauvre ? Eh bien, que la définition juridique de la liberté de droit, fait abstraction du statut économique. C'est-à-dire que cette liberté de droit fait abstraction des moyens réels dont dispose un homme pour réaliser sa volonté. Ainsi, la liberté de droit, vous le savez tous, c'est l'autorisation de faire un certain nombre d'actions, mais cette définition de la liberté de droit ne tient pas compte, elle ne se préoccupe pas de savoir si ce droit correspond à un pouvoir effectif. Ainsi, du point de vue de la liberté de droit, un pauvre est aussi libre qu'un riche. Il a les mêmes droits, si vous voulez. Alors que dans les faits, il n'en est pas réellement ainsi. Hein ? Puisque d'ailleurs, c'est ce qu'explique Leibniz. Regardez la ligne 7, à partir de la ligne 7 du texte. Regardez bien, c'est très simple. Généralement, celui qui a plus de moyens est plus libre de faire ce qu'il veut. Mais on entend la liberté particulièrement de l'usage des choses qui ont coutume d'être en notre pouvoir et surtout de l'usage libre de notre corps. Et c'est en cela que consiste la liberté de fait. Comme le dit Leibniz, ligne 4, la liberté de fait consiste d'abord dans la puissance de faire ce qu'on veut. Alors, les exemples sont faciles à convoquer. Pour ne prendre que quelques exemples simples, que vaut la liberté de voyager si on n'a pas la possibilité matérielle de le faire? Que vaut la liberté d'expression si on est analphabète? Si on ne dispose pas des moyens de s'exprimer. Alors, vous voyez, cette distinction, en fait, que fait Leibniz, elle sera reprise, d'une certaine manière, par Karl Marx. Karl Marx, qui, au XIXe siècle, opposera, alors il ne dira pas la liberté de droit à la liberté de fait, il opposera les libertés réelles aux libertés formelles, en montrant que les libertés formelles n'ont aucune réalité pour des hommes qui sont exploités et soumis aux contraintes de la misère. Et d'ailleurs, le propos de Marx est très bien résumé par le commentaire qu'en fait un philosophe libéral, qui n'est pas marxiste du tout, qui s'appelle Raymond Aron, dans un essai, l'essai sur les libertés, qu'il publie en 1965. Et je vous ai mis le petit commentaire, c'est le texte 1 bis, comme ça, c'est assez facile à saisir. Que signifie, s'écriait Marx, les libertés formelles, le droit de parler, d'écrire, de choisir ses représentants et d'adhérer à son Dieu? Si l'existence réelle, celle de tous les jours, celle du travail, est prisonnière de l'impitoyable nécessité que crée le pouvoir du maître et la tyrannie du besoin. Contre une certaine complaisance des privilégiés enclins à s'accommoder de la misère du plus grand nombre, pourvu que leur liberté formelle fût respectée, la protestation marxiste n'a rien perdu de sa fraîcheur. Donc, voilà, c'est facile à comprendre. Alors, si je reviens à Leibniz, regardez ce qu'il écrit, ligne 9. Lui, ce sont les exemples qu'il donne. Ligne 9, ainsi la prison et les maladies qui nous empêchent de donner à notre corps et à nos membres le mouvement que nous voulons et que nous pouvons leur donner ordinairement dérogent à notre liberté. C'est ainsi qu'un prisonnier n'est point libre et qu'un paralytique n'a pas l'usage libre de ses membres. Fin de citation. Alors, si je résume le propos de Leibniz, donc, la liberté n'est réelle que lorsqu'elle peut se traduire en acte. Si elle est le pouvoir de faire ce que l'on veut. Toutefois, si on s'en tient à cette définition, si être libre, c'est seulement agir sans en être empêché, sans rencontrer d'obstacles, sans rencontrer d'entrave à son action. À ce moment-là, on pourra tout aussi bien dire qu'un homme ivre au volant de sa voiture, qui se sent complètement désinhibé, qui a une très forte impression de liberté, parce qu'il conduit à 200 à l'heure, sur l'autoroute et qu'il n'y a personne devant lui, la route est libre. Eh bien, on pourra toujours dire que cet homme est libre, puisqu'il peut faire ce qu'il veut, sans rencontrer d'obstacles. Ah oui, ça s'applique aussi à son cas à ce moment-là. Vous voyez bien d'ailleurs qu'on peut à ce moment-là parler de la liberté un peu comme de celle dont on parle en physique, quand on dit d'un corps qu'il est en chute libre. Un corps en chute libre, en quoi consiste la liberté de cette chute? Eh bien, cette liberté désigne l'indépendance du corps qui tombe par rapport à d'autres forces que celles de la pesanteur. Ouais, il n'y a que la pesanteur qui, en quelque sorte, pousse le corps à tomber, il n'y a pas d'autre force qui entrave cette chute. Voilà ce qu'on appelle une chute libre. Et bien là, on peut dire aussi, d'une certaine façon, que l'homme qui est complètement sous l'emprise d'une drogue et qui a une impression de liberté, parce qu'il ne rencontre pas d'obstacle devant lui, ben, lui aussi, d'une certaine façon, donc, il est libre, de cette manière. Donc, vous voyez que définir la liberté de cette manière, c'est-à-dire comme la faculté d'agir sans contrainte extérieure, eh bien, c'est la confondre avec la spontanéité irréfléchie d'un homme dont l'esprit est sous l'emprise d'une drogue ou d'une passion. Et ici, il est assez facile de comprendre qu'il ne suffit pas de pouvoir faire ce qu'on veut sans subir de contraintes extérieures pour être réellement libre. Vous voyez ? On ne peut pas s'en tenir à cette définition. Bien sûr que c'est important, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'agir sans contrainte pour être réellement libre. Donc la liberté de fait ne peut pas signifier simplement la liberté de faire ce qu'on veut. Et plus fondamentalement, comme va maintenant le montrer Leibniz, la liberté de fait est plus fondamentalement la liberté que la volonté a de se déterminer elle-même en toute indépendance. Voilà. Commençons à voir apparaître, vous voyez, le sens métaphysique de la liberté. La véritable liberté de fait, c'est pas seulement de pouvoir faire ce qu'on veut, c'est surtout de pouvoir réellement décider de ce qu'on veut. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est la liberté de la volonté. Donc, à ce moment-là, la liberté n'est plus simplement une affaire de puissance, de moyens. Elle ne se joue plus seulement au niveau de notre corps et des moyens matériels dont nous disposons. Elle se joue surtout intérieurement, au niveau de l'esprit. Lisons le texte, ligne 18-21. Ligne 18-21. Et en effet, vous avez trouvé ? Et en effet, on n'a point l'esprit libre quand il est occupé d'une grande passion, car on ne peut point vouloir alors comme il faut, c'est-à-dire avec la délibération qui est requise. Un esprit libre, puisqu'il parle d'esprit libre. C'est un esprit qui ne se laisse pas entraîner par le mouvement d'une passion qu'il subit. C'est un esprit qui réfléchit, qui délibère afin de déterminer quel est le meilleur parti qu'il doit adopter dans sa décision. Un esprit libre, c'est un esprit qui a le temps, qui prend le temps de réfléchir et de délibérer pour choisir, vraiment, en connaissance de cause, ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, au paragraphe 21 du même chapitre, je vous ai photocopié le passage, c'est le texte numéro 2, plus bas. Eh bien, dans ce paragraphe 21, Leibniz fournit d'ailleurs une explication très claire, il suffit de la lire. Quand on raisonne sur la liberté de la volonté ou sur le franc arbitre, alors il dit le franc arbitre, c'est le libre arbitre, hein. Franc veut dire libre. On ne demande pas si l'homme peut faire ce qu'il veut. Mais s'il y a assez d'indépendance dans sa volonté même, on ne demande pas s'il a les jambes libres ou les coudées franches, mais s'il a l'esprit libre et en quoi cela consiste. Voilà, c'est ça maintenant la vraie question. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que comprenez bien que s'en remettre seulement aux capacités de notre corps, c'est se préoccuper seulement des moyens de réaliser un but que nous poursuivons. C'est se préoccuper seulement de ce que nous pouvons faire. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Un acte volontaire, c'est avant tout un acte de l'esprit qui délibère d'abord de la fin qu'il convient de poursuivre, du but qu'il convient de rechercher, du meilleur parti qu'il doit prendre, et qui, loin de s'en remettre simplement à des moyens, adapte au contraire ses moyens à la fin qui sera retenue, à la fin qui sera choisie, la fin que la volonté se donne à elle-même. Vous voyez, la fin prime sur les moyens. Tout simplement. Et les moyens, ben, on va les adapter à la fin. Mais d'abord, on délibère de la fin, du but. C'est ça qui est important. C'est pour ça que l'Église dit, il y a une expression qui vient bien souvent, elle consiste, la liberté, de fait, surtout dans la puissance de faire... Attendez, je recherche sa formule. Elle consiste avant tout dans la puissance de vouloir comme il faut, comme il faut. Mais le comme il faut... Il est déterminé par la délibération. Donc, vous voyez que la véritable liberté implique donc un choix, une intention qui associe ma volonté à mon entendement. Alors, qu'est-ce que désigne le terme d'entendement ? Pour dire l'intelligence, si vous voulez, la raison, c'est une autre faculté que la volonté, l'entendement. Et, vous voyez, en s'associant la véritable liberté, elle associe la volonté à l'entendement par la délibération. La délibération. Hein, afin de vouloir comme il faut, c'est-à-dire afin de choisir ce qu'on se représente comme un bien. Afin de choisir ce qui nous apparaît comme le meilleur parti à prendre. Et ici, bon, vous le savez bien, tous, l'Émile, il n'invente rien, il ne fait qu'exprimer de façon claire, rigoureuse, ce que chacun sait. Hein. Le philosophe, il n'invente pas. Hein. Eh bien, il est clair ici que il ne suffit pas de dire « je veux » pour faire la preuve d'une véritable liberté de sa volonté. Ce n'est pas parce que je dis « je veux » que... ma volonté est véritablement libre. Parce que je dis aussi bien « je veux » alors que j'agis sous la contrainte d'un désir ou d'une passion. Et que c'est la spontanéité irréfléchie de cette passion qui emporte ma volonté dans son propre mouvement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, regardez bien, le vocabulaire est intelligent. C'est bien pour ça qu'on parle de « mobile ». On parle à ce propos de mobiles qui entraînent ma volonté. Les mobiles, ce sont les mobiles qui sont en quelque sorte dictés par les passions, par les désirs, et ces mobiles, hein, c'est ceux qui me mettent en mouvement. Ils mettent en mouvement ma volonté, mais ce n'est pas vraiment elles qui commandent, ce sont plutôt ces mobiles qui commandent à ma volonté. Donc le vrai problème, le problème métaphysique de la liberté, eh bien, ça va être celui de savoir si la volonté est indépendante à l'égard des mobiles qui pèsent sur elle. Est-ce qu'elle est capable ici de résister effectivement à ces mobiles? Est-ce que la volonté est réellement un pouvoir indépendant de l'esprit qui permet à l'homme d'être lui-même la cause de ses actes. Vous voyez, c'est ça l'enjeu fondamental. Est-ce que, oui ou non, il y a en l'homme une volonté qui lui permet de décider vraiment, d'avoir vraiment un pouvoir sur ses décisions et sur ses actes. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que la volonté, c'est un pouvoir de se déterminer indépendamment de toute cause extérieure? Mais, comme vous allez le comprendre maintenant, la question n'est pas, elle ne se pose pas uniquement par rapport au mobile, qui viennent des désirs et des passions, ce qu'on peut appeler de manière générale la sensibilité. Elle va se poser aussi, comme va le dire Leibniz, elle va aussi se poser par rapport aux motifs. Alors qu'est-ce qu'on entend par les motifs? Ce sont les raisons qu'on a d'agir. Et ces raisons, elles sont conçues par l'intelligence, elles sont conçues par l'entendement. Vous voyez, il y a les mobiles qui viennent des passions, des désirs, de la sensibilité, et puis il y a les motifs, ou aussi on dit les raisons qu'on a d'agir, et ces raisons, elles sont réfléchies. Elles sont en quelque sorte examinées par l'intelligence dans cette opération qu'on appelle la délibération. Donc, est-ce que, je reprends ma question, est-ce que la volonté est vraiment indépendante aussi à l'égard des motifs, c'est-à-dire des raisons que conçoit l'intelligence, c'est-à-dire de ce que l'entendement lui indique comme le meilleur parti à prendre au terme d'une délibération. Mais la question, c'est pas simplement la question de son indépendance à l'égard des mobiles, mais aussi la question de son indépendance à l'égard des motifs. Donc, le problème n'est plus seulement ici de savoir si la volonté peut s'opposer à une passion, si elle a le pouvoir de lui résister, mais la question est aussi de savoir si elle peut être libre de choisir contre ce que l'intelligence lui démontre comme étant le meilleur parti à prendre. Est-ce que la volonté peut se décider contre même l'intelligence, qui lui propose pourtant ce qui semble être le meilleur parti à prendre? Alors, qu'est-ce qu'on dit, Leibniz? Alors là, on va voir que c'est là qu'il va y avoir les désaccords entre les philosophes, mais on va cerner le point où, justement, le désaccord va se jouer. Regardez ce que dit Leibniz à la fin. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez comprendre. Ligne 30 à 32. Je commence à l'entendement. Hein. Je fais comme s'il n'y avait pas ce qui précède. L'entendement. Donc l'entendement, je répète, c'est l'intelligence, la raison. Bon. L'entendement peut déterminer la volonté suivant la prévalence des perceptions et raisons d'une manière qui, lors même qu'elle est certaine et infaillible, incline sans nécessité. Alors oui, là, j'admets tout de suite que vous ne puissiez pas immédiatement comprendre. Donc ça mérite une explication. Qu'est-ce que ça signifie? Allons-y doucement. Quand je vois clairement, par l'entendement, donc par l'intelligence, quel est le meilleur parti que je dois prendre pour agir, eh bien, que dit Leibniz? Ma décision s'ensuit de manière infaillible. Et je souligne ce qu'il a dit tout à l'heure, ce que j'ai lu. L'entendement peut déterminer la volonté. Il détermine la volonté. C'est-à-dire que les raisons qu'il conçoit comme les bonnes raisons, comme les raisons préférables, eh bien, que dit Leibniz, elles exercent infailliblement un effet sur la volonté. C'est-à-dire, au fond, Leibniz considère, oui, qu'il y a un déterminisme moral. Il y a un déterminisme moral, on peut appeler ça comme ça, selon lequel la volonté ne peut pas ne pas choisir ce que l'entendement lui présente comme le meilleur choix. Ben, une fois que j'ai été convaincu par mon entendement que ben, c'est le bon parti à prendre, ben, je ne peux pas ne pas suivre effectivement l'entendement. C'est-à-dire que l'entendement détermine, oui, effectivement, ma volonté. Hein? Et alors évidemment, ici, on touche à un point sensible. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, la volonté est complètement ligotée, qu'elle est totalement... qu'elle n'a rien à faire et qu'elle est au fond comme une sorte de... Je sais pas, elle est purement passive, et qu'elle est soumise à une nécessité absolue? Non, non, justement. C'est-à-dire que vous allez voir que Leibniz nous invite à ne pas confondre cette nécessité morale avec une nécessité absolue. Mais alors, je vais expliquer là encore. Hein. Allons-y doucement. Regardez d'abord ce qu'il écrit, ligne 26. Ligne 26, 25-26. Donc c'est ce qu'on appelle le franc arbitre et consiste en ce qu'on veut que les plus fortes raisons, ou impressions que l'entendement présente à la volonté n'empêche point l'acte de la volonté d'être contingent et ne lui donne point une nécessité absolue et pour ainsi dire métaphysique. Là encore, j'ai besoin d'une explication. Et pour que les choses soient claires, ici, il faut expliquer ce que veut dire nécessaire et ce que veut dire contingent. Alors ça, ce sont des outils nécessaires. Il faut maîtriser ces termes si on veut penser rigoureusement. Qu'est-ce que signifie l'adjectif nécessaire? Qu'est-ce que c'est que la nécessité? Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Ou ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est. Vous avez deux formes de nécessité. Ce qui ne peut pas ne pas être ou ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est. Un exemple. Ou alors, on peut le dire d'une autre manière. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui implique... Excusez-moi. Ce qui est nécessaire, c'est ce dont le contraire implique contradiction. Ce qui est nécessaire, c'est ce dont le contraire implique contradiction. C'est-à-dire, ce qui est nécessaire, c'est ce dont le contraire est inconcevable, si vous voulez. Un exemple. En mathématiques, en géométrie, c'est simple, hein. Il est nécessaire que tous les rayons d'un cercle soient égaux. Il est nécessaire que tous les rayons d'un cercle soient égaux. Parce qu'autrement, il y aurait contradiction avec la nature du cercle. Vous voyez, vous comprenez? C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. Voilà. C'est nécessaire au sens, ça ne peut pas être autrement. Ou sinon, il y a contradiction. Sinon, c'est inconcevable. Voilà ce que veut dire nécessaire, au sens métaphysique et logique. Que veut dire contingent? Pas compliqué. Contingent, c'est ce qui peut ne pas être. C'est ce qui peut ne pas être ou ce qui peut être autrement. Par exemple, mon existence est contingente. J'aurais pu ne pas naître. J'aurais pu ne pas être. Et j'aurais pu être autrement. Il n'y a aucune contradiction à concevoir le contraire. Ma non-existence est concevable. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout cela, quelle différence y a-t-il entre la nécessité absolue qui caractérise par exemple le cercle et les propriétés du cercle, et puis la nécessité morale dont parle ici Leibniz, qui régit la conduite de celui qui délibère et qui choisit. Eh bien, dans le cas de la nécessité morale, le contraire n'implique aucune contradiction. Le contraire n'implique pas de contradiction. C'est-à-dire que le contraire de ce qui paraît le meilleur n'a rien de contradictoire. Le contraire de ce qui paraît le meilleur n'a rien de contradictoire, c'est tout à fait concevable. Vous voyez ? Ce n'est pas impossible, ce n'est pas inconcevable. Et la délibération a certes dégagé le meilleur parti, mais bon, il n'est pas inconcevable de prendre qu'un autre parti existe. Hein. Ben, sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas de délibération. Mais, alors vous me direz, oui, mais alors pourquoi il y a nécessité morale ? Eh bien, il y a nécessité morale au sens où la volonté choisit nécessairement ce que son entendement, ce que l'entendement lui permet de concevoir comme le meilleur parti. Est-ce que je reprends ? Donc, il y a nécessité morale au sens où la volonté choisit nécessairement ce que l'entendement présente comme le meilleur parti. Comme le meilleur parti à prendre. C'est-à-dire que, alors évidemment, vous me direz, oui, mais ils peuvent se tromper, les hommes, sur ce qui est bon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les hommes peuvent se tromper sur ce qu'ils entendent comme le meilleur. Mais qu'ils se trompent ou non, ils agissent nécessairement toujours selon ce que leur entendement leur présente comme le meilleur. Vous voyez ? C'est-à-dire que la liberté, pour le dire d'une façon plus simple, la liberté de l'homme ne se détermine jamais sans raison. Elle ne se détermine jamais sans raison. On ne veut jamais sans raison. On ne veut jamais sans raison. On veut toujours pour ce qu'on estime être une bonne raison, à tort ou à raison. Et voilà la réponse de Leibniz. La réponse de Leibniz qui... Alors, ce qui veut dire que Leibniz écarte l'idée d'une liberté de la volonté qui serait purement indéterminée. Il écarte l'idée d'une liberté de la volonté qui ferait de la volonté un pouvoir totalement indéterminé, qui pourrait choisir sans raison. Vous voyez, qui pourrait se déterminer sans raison. Et sur ce point, on aura l'occasion de le voir, eh bien, il va y avoir des discussions serrées entre philosophes, hein, il va y avoir un débat entre philosophes. Leibniz ici s'écarte, par exemple, de ce que montre Descartes. Descartes, lui, pense qu'il y a un pouvoir absolu de la volonté qui s'exprime par le fait que la volonté peut toujours effectivement choisir contre ce que l'entendement lui présente comme le bien. Vous voyez ? La liberté de la volonté est une liberté absolue qui peut aller jusqu'à choisir sans raison. Leibniz, évidemment, là, est en désaccord. Et puis alors, il y a un troisième philosophe, effectivement. Vous voyez, pour Leibniz, la liberté est déterminée, hein. C'est-à-dire que la volonté se détermine toujours d'après la représentation qu'elle se fait du bien. Et un troisième philosophe, dont je parle déjà tout de suite, même époque à peu près, Spinoza. Et lui, sa position est encore plus radicale. Lui, il exclut carrément l'idée d'un libre arbitre. L'idée d'une liberté de la volonté n'a strictement aucun sens pour lui. Elle exprime une illusion. Alors on aura l'occasion de lire ce philosophe, qui est très important. Et pourquoi c'est une illusion ? Parce que je cite Spinoza, je présente pour l'instant. Je cite Spinoza dans la première partie de son Éthique. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actes, mais sont ignorants des causes qui les déterminent. Je reprends. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actes, mais sont ignorants des causes qui les déterminent. Parce que, au fond, je suis conscient de ce que je fais, mais je ne sais pas vraiment pourquoi je le fais. En tout cas, je n'ai pas une connaissance claire des raisons qui me poussent à agir. Vous voyez ? Et comme j'ignore les causes qui sont à l'origine de mes décisions et de mes actions, eh bien, je vais croire que c'est moi, ma volonté, qui souverainement décide de ces actions. C'est-à-dire que j'attribue à ma volonté, à ce que j'appelle ma volonté, l'origine de mes décisions, la seule origine de mes décisions et de mes actions. C'est-à-dire que je crois ainsi posséder un pouvoir absolu de choix. Je crois ainsi posséder un libre arbitre. Mais évidemment, pour Spinoza, ce n'est là qu'une illusion. Il n'y a pas de libre arbitre. Évidemment, vous aurez compris que la philosophie de Spinoza, c'est celle d'un déterminisme universel. Et je présente les choses. Hein. Là, pour l'instant, bon, j'ai lu la Nice jusqu'au moment où ça devenait un petit peu difficile, parce qu'effectivement, là, il y a une thèse qui va être discutée, discutable. Bon. Mais au moins, il nous a servi déjà à débroussailler. Alors, si je fais le bilan de cet examen, de l'examen des différentes significations du terme de liberté que nous avons poursuivi. Petite synthèse. Nous sommes partis du sens politique de la liberté. Et sous cet aspect, je rappelle, la liberté, c'est un statut toujours menacé, qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être protégé par des lois pour être maintenu. Je pense au premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent libres. Attendez, c'est pas seulement ça. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le verbe le plus important, c'est demeure. Ils naissent parce que c'est dans la nature de l'homme d'être libre, mais le plus important, c'est qu'il le demeure. Et souvent, malheureusement, dans les faits, il ne demeure pas. Vous voyez ? Bon. Donc, ici, sans l'institution des lois, chacun risque de tomber à la merci d'un homme plus puissant qui le soumet à ses décisions. En ce sens, vous voyez, dans ce sens-là, dans le sens initial qu'on a présenté, le sens politique, la liberté, c'est un bien extérieur, que l'on peut perdre, et qu'on peut aussi, bien sûr, conquérir ou reconquérir. Mais c'est un bien extérieur que l'on peut perdre. La liberté, ici, dépend de la conjoncture, en quelque sorte. Alors, en tant que statut, vous voyez, elle se distingue vraiment radicalement de la liberté au sens métaphysique du mot. Ici, la liberté métaphysique, c'est la liberté de la volonté, si elle existe. C'est une liberté intérieure et non plus extérieure. C'est une liberté intérieure. C'est une liberté intérieure à l'esprit qui est considérée comme la propriété constitutive de la volonté humaine. Et de cette liberté, aucun homme ne peut être dépossédé. On ne peut pas la perdre, celle-là, puisqu'elle nous constitue dans notre nature d'homme. Alors, on peut y renoncer. On peut y renoncer. Mais on y renonce toujours librement, d'une certaine façon, en s'aliénant. Mais on ne peut pas la perdre, au sens où c'est nous. La liberté, elle est constitutive de l'homme. Elle constitue l'humanité de l'homme. Vous voyez ? Alors, c'est très important, vous voyez, de bien distinguer les deux sens, vous voyez ? Une liberté, la seule qu'on puisse perdre, c'est la liberté politique, et une liberté qu'on ne perd jamais, puisqu'elle est constitutive de notre être, c'est la liberté au sens métaphysique, si, bien sûr, on accorde une liberté à la volonté. Alors maintenant, examinons plus attentivement la notion de libre arbitre par laquelle nous désignons la liberté de la volonté. Première question, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous autorise ? Qu'est-ce qui nous autorise à affirmer son existence ? Est-ce que ce n'est pas comme ça une affirmation arbitraire ? Hein ? Vous dites que la liberté, vous dites que la volonté est libre. Bah oui, mais prouvez-le ! Prouvez-le ! Eh bien, pour le dire autrement, je reprends ma question. Qu'est-ce qui nous autorise à admettre qu'il n'y a pas que de la nécessité ? Qu'est-ce qui nous autorise à admettre que le déterminisme n'est pas universel ? Et que nous disposons, en tant qu'homme, d'un pouvoir absolu de nous déterminer sans être déterminé. Comment l'homme sait-il qu'il dispose d'un tel pouvoir ? Eh bien, voyez la réponse de Descartes. Voyez la réponse de Descartes, texte numéro 4, page 2. Texte numéro 4, page 2. Je ne lis pas tout le texte. Le titre de l'article. Que la liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Et je dis la première phrase. Au reste, il est si évident que nous avons une volonté libre qui peut donner son consentement ou ne l'a pas donné, quand bon lui semble, que cela peut être compté pour une de nos plus communes notions. J'arrête là ma lecture. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que notre volonté est libre ? Réponse de Descartes, l'expérience. L'expérience intérieure. C'est-à-dire le sentiment intérieur qui s'éprouve comme une évidence. C'est-à-dire, au fond, que nous sommes libres, c'est une évidence. C'est l'évidence d'une expérience qui s'impose à l'esprit, nécessairement, de manière indubitable. C'est-à-dire que, on va développer, la liberté de la volonté, hein, je répète, elle se prouve en s'éprouvant, en quelque sorte. Elle s'éprouve. Elle ne se démontre pas, c'est une évidence. Hein, elle s'impose nécessairement à l'esprit, comme une évidence. Une évidence, hein, c'est une idée qui s'impose à l'esprit et qui est indubitable. Eh bien, vous voyez que, par exemple, ici, Descartes parle de la liberté de la volonté comme d'une notion commune. Et il reprend ici, par ce terme de notion commune, le terme qu'utilisait le grand fondateur de la géométrie, Euclide, quand il parle des axiomes. Les axiomes, c'est les vérités premières qui sont au point de départ de la théorie. Puis après, vous avez les vérités qui sont démontrées à partir des axiomes. Les axiomes, on ne les démontre pas. Ce sont des évidences qui s'imposent nécessairement à l'esprit. Eh bien, la liberté est un axiome, en quelque sorte, comme les axiomes de la géométrie d'Euclide, comme, par exemple, l'exemple d'axiome de la géométrie d'Euclide, le tout est plus grand que la partie. Ça ne se démontre pas. Ça s'impose à l'esprit, nécessairement. Autrement dit, donc, l'affirmation de la liberté, c'est un axiome, c'est une vérité première et certaine. Alors, maintenant, en quoi consiste ? En quoi consiste la liberté de notre volonté ? En quoi consiste ce qu'on appelle le libre arbitre ? Prenez le texte suivant, texte numéro 5, qui est un extrait de la quatrième méditation métaphysique. Je lis juste ce qui est nécessaire dans ce texte. Je lis ce qui est souligné au milieu. Alors, j'ai souligné expériment pour montrer, rappeler que c'est une expérience. Et voilà ce que vous devez lire avec moi, ligne 12. Car elle consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne la faire pas. C'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir, ou plutôt seulement en ce que pour affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l'entendement nous propose, nous agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Bon, on va essayer d'illustrer ça par des choses très simples. Quand nous concevons un projet, quand nous considérons un objectif, quand nous envisageons une initiative, il ne dépend que de nous, c'est comme ça que nous le vivons, il ne dépend que de nous de poursuivre cet objectif. Il ne dépend que de nous de mettre en œuvre cette initiative. Nous sentons bien en nous, lorsque nous faisons le choix, que ce choix ne dépend que de nous. Et c'est en cela que nous faisons l'expérience de la liberté. C'est ça, l'expérience de la liberté. Alors maintenant que ce choix soit réalisable, qu'il rencontre des obstacles, ça ne dépend pas de moi. Mais il dépend de moi de le décider ou non. Et ça, c'est une expérience indubitable. Ce n'est pas quelque chose qui se démontre par un raisonnement. Donc, vous voyez ce que dit tout simplement Descartes. Et alors, évidemment, comment se présente ici le libre-arbitre ? Comme un pouvoir des contraires. C'est-à-dire, un pouvoir des contraires, c'est-à-dire je peux vouloir une chose ou son contraire. Je peux vouloir faire quelque chose ou ne pas le faire. Je peux vouloir agir ou ne pas agir. Vous voyez ? Quand on vote, par exemple, quand on participe à une élection, on a plusieurs candidats. On sait très bien que si on choisit ce candidat, on pourrait choisir un autre candidat. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Eh bien, vous voyez ce que c'est que le libre arbitre. Que la volonté. Alors maintenant, que la volonté s'éprouve comme un pouvoir absolu. Elle s'éprouve comme un pouvoir absolu qui est toujours au-dessus des choix qu'elle effectue. C'est-à-dire que l'expérience du choix, je rappelle, consiste à pouvoir faire une chose ou ne la faire pas. Je reprends la formule de Descartes. À pouvoir faire le contraire de ce qu'on aura choisi. C'est une drôle d'expérience que celle du libre arbitre. J'ai choisi quelque chose que je trouve bien, mais je sais qu'en le choisissant, j'aurais pu choisir autre chose. Vous voyez ? C'est ça qui est caractéristique du libre arbitre. Eh bien, on peut fournir l'illustration de ce pouvoir des contraires, de ce pouvoir de la volonté, par ce qu'on appelle la liberté d'indifférence. Vous allez voir de quoi je parle. C'est-à-dire qu'au fond, ce que va nous montrer ici la liberté d'indifférence, elle est une manière de nous montrer, de nous prouver indirectement ce que l'on entend par la liberté de la volonté. C'est ça que nous allons comprendre. C'est-à-dire que la liberté d'indifférence, j'explique ce que ça veut dire, c'est la liberté de se déterminer, c'est la liberté de se déterminer alors qu'aucune raison ne nous incite à choisir ceci plutôt que cela. Alors même qu'on n'a aucune raison de choisir. C'est ça la liberté d'indifférence. C'est-à-dire qu'il y a indifférence au sens où je n'ai pas plus de raison de choisir ceci que cela. Vous voyez ? C'est-à-dire que les parties entre lesquelles j'ai à choisir me sont indifférents. Vous voyez ? Je pourrais choisir A ou B, A ou non A, enfin bon, peu m'importe. C'est ça la situation d'indifférence. Eh bien, ce que nous allons dire de la liberté d'indifférence, eh bien, va nous montrer, cette liberté d'indifférence, va nous montrer à l'état pur, en quelque sorte, elle va nous prouver à l'état pur en quoi réside la liberté de notre volonté. C'est ça que nous allons comprendre. Et pour comprendre, justement, le rôle que joue cette liberté d'indifférence, eh bien, on recourt traditionnellement à une fiction très célèbre. C'est la fiction, vous en avez certainement entendu parler, c'est la fiction de l'âne de Buridan. L'âne de Buridan. Alors, je vais présenter effectivement cette fiction. Alors, qui est Buridan ? C'était un philosophe du Moyen-Âge, 14e siècle. Il est né en 1300, il est mort en 1366, auquel on attribue, c'est même pas sûr que ce soit lui qui l'ait formulé, auquel on attribue l'invention de cette fiction que je vais vous présenter. Et quel est l'intérêt de cette fiction ? Elle permet de mettre en valeur justement la fameuse liberté d'indifférence dont seul l'homme est capable à la différence des bêtes, notamment à la différence d'un âne. Alors, voilà l'histoire. Supposez, c'est une pure fiction, supposez un âne qui n'a ni bu ni mangé depuis plusieurs jours et qui souffre aussi bien donc de la soif que de la faim. Ça va ? Supposez que cet âne que cet âne, pardon, se trouve placé à égale distance d'un seau d'eau et d'un seau d'avoine. À gauche, un seau d'eau, à droite, un seau d'avoine. Alors, la faim l'empêche de se diriger vers le seau d'eau, parce qu'une fois qu'il se dirige vers le seau d'eau, la faim le tenaille, il revient en arrière parce qu'il pense à sa faim. Il ne pense pas, il a faim. Donc, la faim l'empêche donc de se diriger vers le seau d'eau, la soif l'empêche de se diriger vers le seau d'avoine, et dans cette situation tragique, qui est précisément une situation d'indifférence, eh bien, dans cette situation tragique où la faim et la soif jouent comme deux forces qui s'opposent et s'annulent, car elles sont d'égale intensité et elles s'exercent dans des directions opposées, vers deux seaux qui sont à égale distance, eh bien, dans cette situation tragique, le pauvre âne est condamné à rester immobile et à mourir et de faim et de soif. Alors, n'allez pas me faire des objections, c'est pas vrai, la soif, ça... Non. Prenez au sérieux la fiction, prenez-la pour ce qu'elle est, évidemment, elle est certainement peut-être factuellement contestable, enfin, c'est comme ça, pour imaginer la chose. Eh bien, là, lui, il crèverait, il mourrait, mais pas l'homme. Un homme, ça ne lui arriverait pas de mourir dans une situation équivalente. Pourquoi ? Parce que l'homme, contrairement à la bête, dispose justement de la liberté de sa volonté. Il est capable de sortir d'une situation d'indifférence, il est capable de se déterminer sans raison et d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, alors qu'il n'a pas plus de raison de choisir celle-ci plutôt que celle-là. C'est sa liberté d'indifférence qui va faire pencher la balance. Mais simplement parce que, ici, la liberté de la volonté consiste dans son pur et simple pouvoir de décider. Vous voyez ? C'est-à-dire que cet exemple de la liberté d'indifférence est là pour vous montrer que la volonté est supérieure. Elle est au-dessus, elle est souveraine, elle est au-dessus des choix qu'elle peut être amenée à prendre. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Donc, vous voyez que la liberté d'indifférence permet donc à l'homme de sortir justement de l'indifférence, de faire la différence, et elle illustre par l'absurde la présence de la liberté en l'homme. Vous voyez, c'est ça que montre ici cet exemple. Alors, comme on l'aura compris, vous voyez, l'affirmation de la liberté de la volonté humaine suppose, et c'est le dernier point auquel j'arrive, l'affirmation de la liberté de la volonté humaine suppose qu'on différencie les actions et les productions de l'être humain des phénomènes naturels. Lorsque vous analysez la nature, c'est-à-dire la nature, c'est l'ensemble des choses existantes qui nous entourent au sens large. Quand vous analysez la nature, eh bien, vous cherchez à comprendre les phénomènes que vous observez comme des effets. Et à partir de là, vous cherchez à déterminer les causes qui produisent ces phénomènes. Qu'est-ce que j'entends par phénomène ? La chute des corps, le mouvement des planètes, la dilatation des métaux, sous la chaleur, l'ébullition de l'eau à 100 degrés. Vous voyez, bon, vous observez des phénomènes et vous les considérez comme des effets qui sont nécessairement produits par un certain nombre de causes. C'est comme ça que vous procédez. En revanche, si vous considérez l'homme et vous lui attribuez un libre arbitre, eh bien, l'homme vous apparaît à ce moment-là comme un être à part. Il vous apparaît comme un être indépendant de la nature. Un être qui n'est pas réductible à son être physique. Bien sûr, nous avons un corps. Mais en tant qu'homme, si nous sommes dotés d'un libre arbitre, si notre volonté est libre, eh bien cela signifie que ce que nous sommes, notre être, est irréductible à notre être physique. Il y a une indépendance au fond de l'homme par rapport à la nature, par son esprit, si vous voulez, il se distingue de ce qui est naturel. Et aussi, si je vais plus loin, si je continue dans cette idée, quelque proximité qu'il y ait entre l'homme et la bête, même si nous sommes très proches du singe, par exemple, eh bien, si nous affirmons la liberté de la volonté humaine, eh bien, cela signifiera qu'il y a, selon nous, une différence radicale, une différence de nature entre l'homme et la bête. C'est-à-dire que la thèse du libre-arbitre affirme une différence de nature entre l'homme et l'animal. Alors que si, par contre, vous êtes dans la conception du déterminisme universel, vous admettrez qu'il y a une différence de complexité, une différence de degré, que l'homme est une bête un peu plus complexe, si vous voulez, que le singe ou, je ne sais pas, moi, le chien. Mais vous n'établirez pas une différence de nature. Vous étudierez l'homme comme un être naturel. Simplement, vous voyez ? Eh bien, nous allons terminer, si vous voulez, cette séance. Je ne sais pas si on va aller très loin, parce que là, il est déjà 10 heures. Nous allons, pour illustrer justement cette opposition entre le libre arbitre et le déterminisme universel, nous allons lire deux textes. Un premier texte, qui est un texte de Voltaire, qui est assez amusant, qui défend la thèse déterministe, et puis un texte de Rousseau, pour lequel, au contraire, la liberté de la volonté humaine implique une rupture avec la nature. Alors, je vous présente brièvement le texte de Voltaire, au moins, un minimum. D'abord, peut-être on reprendra ça la fois suivante, hein, on commencera par là. Le texte de Voltaire, c'est un extrait de l'article Liberté, qui paraît dans son dictionnaire philosophique, publié en 1764. Et le texte de Rousseau, alors c'est pages 3 et 4, hein. Le texte de Rousseau, c'est un extrait de son fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui lui est paru en 1755. Alors, rapidement, petite présentation du texte de Voltaire. Vous le lirez, franchement, il est drôle. Il y a plein d'humour en même temps. Enfin, en même temps, c'est bon, c'est une démonstration, et en même temps, il y a une certaine dose d'humour. Alors, il se présente comme un dialogue un peu imaginaire entre deux personnages, A et B. A, c'est Voltaire, hein, si vous voulez. A va montrer à B que la thèse qu'il défend, c'est-à-dire la thèse du libre-arbitre, est absurde. Pour A, la liberté ne peut consister que dans le pouvoir de faire ce que la volonté est déterminée à faire. C'est-à-dire que, je répète, on a déjà vu cette définition, pour A, pour celui qui est déterministe, la seule définition qu'on peut donner au fond de la liberté, c'est le pouvoir de faire ce qu'on veut, sans en être empêché. Étant entendu que ce que veut la volonté est déterminé par des causes. Et ça, c'est A. Et donc, la liberté, ce n'est pas autre chose que le pouvoir de faire ce qu'on veut. C'est tout, rien d'autre. Alors B lui oppose, ben non, la liberté, ça ne peut pas se réduire au pouvoir d'agir. Sinon, il n'y a pas de différence entre moi et mon chien. Et B tient à rappeler la définition du libre-arbitre, c'est-à-dire ici, la liberté consiste essentiellement dans le pouvoir de ma volonté, c'est-à-dire le pouvoir qu'elle a de décider par elle-même. Et alors, vous allez voir que Voltaire va déployer ici un certain nombre d'objections, B va déployer un certain nombre d'objections qu'il oppose à A pour contester sa définition et pour rappeler que la vraie liberté, c'est la liberté de vouloir et non pas de pouvoir. Et puis, à chaque fois, qu'est-ce que va faire A ? Il va répondre aux objections Il va répondre aux objections et puis il va les réduire, il va les réfuter, et de façon assez amusante. Mais on ne va peut-être pas, dès à présent, commencer à lire le texte. C'est-à-dire que ce texte, à la limite, nous permet de revoir tout ce que nous avons dit, de façon assez synthétique, mais assez, de manière assez amusante en même temps. Et le texte de Rousseau, lui, est assez, d'une certaine façon, permet de répondre à ce que dit Voltaire. Une réponse très intéressante à ce que dit Voltaire. Et là, moi, je pense que vous avez deux textes tout à fait importants et significatifs qui résument très bien l'opposition qui existe entre ces deux thèses, donc déterministe et thèse du libre-arbitre, et qui, je dirais, ce sont deux thèses qui se jouent surtout à travers la question de la différence entre l'homme et la bête. Si vous êtes partisan du libre-arbitre, il y a une différence radicale, une différence de nature. Avec l'homme, vous êtes au-dessus de la nature. L'homme est un être métaphysique, par son esprit, par sa volonté. Il y a une dimension métaphysique. Si par contre vous êtes dans le cadre du déterminisme universel, qui est le cas de Voltaire, il y a une différence entre l'homme et la bête, oui. L'homme peut faire beaucoup plus de choses que la bête, oui. Il a un pouvoir bien plus important, oui. Mais il est plus libre en ce sens que la bête, mais il n'est pas libre autrement. C'est-à-dire, il n'est pas libre autrement parce qu'à la limite, la seule question de la liberté qui s'oppose, c'est celle du pouvoir d'agir. Il y en a un qui a plus de pouvoir que l'autre, mais vous ne pouvez pas distinguer l'homme de la bête en, je dirais, en parlant de la liberté de sa volonté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Il n'y a pas une âme, il n'y a pas un esprit, qui serait indépendant de la nature. L'homme, c'est un être naturel comme les autres, même s'il est effectivement un être plus complexe que bien des bêtes. Voilà la question, voilà comment la chose va être abordée. J'en reste là pour ne pas aller trop loin. Alors, à vos questions. Ce n'est qu'une entame, hein. Donc j'ai présenté un peu les problèmes. Vous voyez, j'ai bien vu à un moment donné qu'il fallait tenir un peu toucher la question de plus près, mais je n'ai pas été plus loin. Allez-y.
Un enfant ne peut être libre au sens propre qu'il est libre au sens de son propre. J'étais l'autre jour dans le bus, il y avait une gamine avec sa mère, et la gamine faisait un bazar invraisemblable dans le bus, donc j'ai fini par tapoter sur son épaule et lui dire « Et toi, petite, si tu te calmais un petit peu ?» Et la mère m'a répondu avec superbe « Ma fille et moi, on est libres. »
Ah, bah oui.
Il s'agissait de licence et pas de liberté. Donc j'ai eu la présence d'esprit, pour une fois, parce que ça n'arrive pas souvent, mais enfin, j'ai dit « Bon courage pour l'adolescence ». La vraie question, c'est que cette gamine n'était pas en mesure de se déterminer suivant son entendement, sur sa capacité, sa volonté, le bazar dans le bus ou pas. C'était quelque chose qui lui venait comme ça.
C'est-à-dire, c'est tout le problème, c'est qu'on confond assez souvent la liberté avec la spontanéité. Comment dirais-je ? Oui, il y a un apprentissage de la liberté qui se fait par l'expérience des limites.
Voilà, c'est pour ça que poser des limites, c'est
oui. Formateur. Oui, tout à fait. Et que l'interdit n'est pas du tout quelque chose de, je dirais, de négatif, c'est plutôt quelque chose de libérateur. Ça permet à un enfant qui n'a pas effectivement fait l'expérience, de l'obstacle des autres, effectivement, il est prisonnier, entièrement prisonnier de ses impulsions, de ses caprices, de ses désirs. Il est incapable de se mettre à la place d'autrui. Effectivement, il risque d'être tyrannisé par ses désirs, et qu'un être qui est tyrannisé par ses désirs, il devient un véritable tyran. Il n'a pas d'autre destin que de devenir un tyran. Si j'ai été habitué, effectivement, à me faire obéir dès le plus jeune âge et à avoir tous mes caprices exaucés, la seule carrière que je puisse envisager, c'est de devenir despote. Sinon, je serais très malheureux. Là, c'est sûr. Alors, là, c'est, une... oui, là, c'est la question d'éducation que vous posez. Effectivement, comment un être, évidemment, qui est au départ entièrement absorbé par ses désirs, ses impulsions, qui est une sorte de petit animal, hein, en quelque sorte, hein, qui a des penchants, parvient, effectivement, à devenir le maître de sa conduite, c'est ça.
Mais donc, est-ce qu'on peut dire, à juste titre, les hommes naissent libres,
Alors, naissent, ça ne veut pas dire... naissent, ça veut dire c'est dans leur nature. C'est pas une naissance au sens chronologique. Hein. Voilà. Ils naissent libres, c'est-à-dire que c'est constitutif de leur nature. Hein. C'est-à-dire que la liberté, elle définit l'homme. L'homme est cet être qui décide de ce qu'il est. Si, alors évidemment, cette définition présuppose l'idée d'une liberté de la volonté. La question ne peut pas être vue de la même manière si on est déterministe.
Et même à mon avis, ça n'est pas tant la nature de l'homme, sa nature d'être libre, c'est quelque chose qu'on décide collectivement.
Alors, c'est-à-dire que l'individu va se construire par son rapport aux autres et à la collectivité.
C'est une construction.
C'est une construction. Oui, on va envisager la liberté comme le résultat d'un apprentissage. C'est-à-dire que il ne suffit pas de disposer d'un libre arbitre, encore faut-il savoir en faire usage. Voilà, ça c'est...
C'est de la culture autant que de la nature.
Surtout la culture. Surtout la culture. Alors ça c'est le problème que tous les philosophes se posent quand ils abordent la question de l'éducation. Soit Descartes, soit Rousseau. Et même s'ils ont une conception très différente de la liberté, les uns déterministes, les autres... partisans du libre-arbitre, finalement, ils se rejoignent sur bien des choses, sur ce plan-là. C'est-à-dire que la liberté ne s'accomplit jamais dans l'immédiateté. Voilà ce que ça signifie. C'est-à-dire que l'immédiateté, la satisfaction immédiate de ses désirs, de ses penchants, c'est pas une véritable liberté, c'est plutôt une forme de servitude, de dépendance. D'autant plus qu'un enfant étant incapable dès le départ, il le sait, il est impuissant, l'enfant, au départ. Il est incapable de satisfaire seul ses besoins. Il a besoin des adultes. Mais il ne s'en rend pas compte tout de suite. Comme il est habitué à se voir servi, il peut croire, finalement, que c'est dans l'ordre des choses. Et donc, il peut, effectivement, rester dans cette espèce de situation où... celui qui est le plus dépendant, celui qui est le plus impuissant, finit par se croire le maître de celui dont il a besoin pour voir ses désirs satisfaits. Vous voyez, c'est une espèce de... Donc il y a tout un apprentissage. La liberté, elle passe effectivement par l'exercice, par l'épreuve de la limite, l'apprentissage difficile. Alors, quelles sont les limites aussi ? S'il s'agit de limites qui sont purement de l'ordre de la contrainte, si un enfant a été simplement battu, dressé, si la seule expérience qu'il ait des limites, c'est une expérience de la pure et sainte contrainte, il ne va pas non plus tellement développer ses capacités. Il en faut quelques-unes, mais si elles ne sont que de cet ordre-là, il ne va pas pouvoir effectivement développer ses capacités, c'est-à-dire être capable de se donner à lui-même des limites. Et c'est ça la véritable liberté. Là, on commence par la contrainte. Mais si on ne reste qu'à des contraintes, on ne devient pas autonome. Alors non, ça c'est tout un aspect de la question sur lequel je ne comptais pas intervenir, mais bon, vous avez raison. Oui, je pense que tu as... tu as une efficacité magique, tu n'as même pas besoin d'agir directement par des instruments sur les choses déjà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ?
Oui.
Alors, justement, on est le produit, mais si on n'était que le produit, on n'aurait pas la possibilité de se distancier de ce qu'on a acquis. Je veux dire par là que, disons que si liberté il y a, elle est dans la capacité de prendre de la distance à l'égard de ce qui nous a formés, à l'égard de la culture qui nous a construits. Vous voyez ? Alors, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça. Par exemple, pour prendre un exemple, si je n'apprends vraiment à me connaître que si je m'arrache d'une certaine façon à mes préjugés, aux habitudes qui m'ont d'abord construit et dont je ne suis même pas conscient au départ. Hein, je suis complètement immergé dans la culture qui m'a formé au début. Mais c'est là que on peut réfléchir sur ce qui fait qu'on va commencer à mettre en question ce qu'on a acquis, en se confrontant par exemple à d'autres cultures, en exerçant sa réflexion et d'une certaine façon, l'apprentissage philosophique, mais pas que, la lecture ou autre chose, voyez, qui va vous permettre à ce moment-là de raisonner et de comparer et de prendre conscience de la relativité de votre situation.
Mais on ne peut pas s'en extraire dans l'action.
Ah non, c'est une distance, une opération de distance. Mais ça veut dire qu'on n'est pas, même si on est pétri, hein, même si on est construit par la culture, on n'est pas entièrement réductible à ce que la culture a fait de nous. À ce que cette culture a fait de nous. Nous sommes capables, effectivement, par la distance que nous prenons par rapport à ça, de nous construire autrement, de cheminer d'une autre manière. Hein. Il n'y a pas de fatalité. Hein. Alors ça, c'est effectivement un aspect très important. C'est ça. Et à la limite, on ne pourrait même pas parler de préjugés si nous étions entièrement déterminé par nos préjugés. Vous voyez, c'est ce qui veut dire qu'il y a tout de même une capacité de réflexion en l'homme qui n'est pas réductible au fond à ce qui est le résultat de sa formation et de son éducation. Alors là, c'est une question importante. Enfin, c'est difficile, je vais y répondre tout de même. Et ça mérite tout de même certainement un approfondissement. Est-ce que les hommes sont tous... vous allez me dire, ça va dépendre des uns et des autres, hein, ce que vous allez me dire. Peut-être, mais il y a tout de même une faculté qui est peut-être commune à tous les hommes, c'est cette faculté de réflexion, de raisonnement. Et simplement, la question est de savoir si les hommes en font usage ou pas. C'est pas qu'ils sont incapables a priori, mais c'est qu'ils ne font peut-être pas forcément usage de cette réflexion.
Non, ils ne sont pas. Non, techniquement, pour moi, ils ne sont pas incapables. Tout le monde est capable, sauf que l'endroit où on est, le milieu social dans lequel on évolue, etc., différents paramètres
font. Ah, totalement! Totalement. Bah, par exemple, comme montrent les philosophes, dans une société où règne la peur, la crainte. Bon, allez, hein. Une société où règne la crainte ou la peur, effectivement, les hommes ne sont pas enclins à réfléchir et à exercer leur capacité de jugement. Hein, vous voyez, ils sont soumis. La crainte les habitue à rester soumis. Et pas seulement au sens où ils ont peur de recevoir des coups, mais même intérieurement, ils n'osent même pas penser et réfléchir. Ils sont inhibés. Vous voyez ? Ce n'est pas une question purement intellectuelle, vous voyez ?
Et puis, de la même manière, quand on n'a pas accès au langage, en tout cas,
alors, alors, évidemment, c'est évident. C'est évident que pour pouvoir effectivement apprendre à penser, il faut apprendre à parler. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui sont requises, sans lesquelles, effectivement, la liberté est vaine. Hein, c'est clair. Ça, c'est, alors, on est là dans le registre du pouvoir. Hein. Par exemple, effectivement, si on n'a pas appris à parler, ben, on n'a pas le pouvoir, effectivement, d'exercer sa pensée. Et éventuellement, évidemment, de pouvoir s'affranchir hein, de ce dont on est d'abord dépendant. Hein. On est d'accord. Et, voilà. Et donc, effectivement, il y a sans doute une liberté de la volonté, enfin, je me place du point de vue du libre arbitre, hein, mais elle ne s'exerce pas n'importe comment. Elle ne peut pas s'exercer si au départ, effectivement, un être humain est totalement dépendant, totalement astreint à la servitude, etc. Vous voyez, bon, là, il y a des conditions qui sont même requises. Hein. Pour que ça soit possible. Oui, vos questions sont justes, hein, c'est sûr. Le paradoxe de l'éducation, comme le montre le philosophe Kant, c'est que pour apprendre à devenir libre, c'est-à-dire vraiment autonome, être capable de se diriger soi-même, de se donner à soi-même des règles de conduite, il faut commencer par être contraint. Et il ne faut pas en même temps que cette contrainte soit asservissante, enfin qu'elle brise. Si elle brise totalement la volonté, c'est un échec. Et c'est pour ça qu'une éducation est toujours plus ou moins ratée. Parce que, si la contrainte est le moyen de l'émancipation, c'est un art extrêmement difficile. Si on laisse l'individu livré à lui-même, l'enfant livré à lui-même, bonjour l'adolescence. il n'apprend pas à être libre. Hein. Il est dépendant. Quelqu'un de tyrannique, c'est quelqu'un de dépendant. Et si, à l'inverse, il est totalement, exposé à la crainte, s'il ne fait que recevoir des coups, etc., il ne va pas non plus exercer ses capacités. La contrainte, c'est pas forcément, vous voyez, la schlag. Hein. Alors tout est là.
Ça veut dire que finalement, c'est presque fou de dire que tout le monde est libre. On y est tous.
Alors, c'est tout le. Alors, je vais vous répondre à la manière de le philosophe du libre arbitre. Vous dire tout le monde est libre. Ça ne veut pas dire que nous sachions faire usage de notre liberté. Il y a des degrés. Alors ça, c'est ce que dira Descartes. Il y a des degrés de liberté. Bon, un philosophe comme Spinoza, qui lui ne parle pas de libre arbitre, il dira qu'au départ, les hommes sont dans la servitude. Ils sont d'abord. Nous commençons toujours par l'expérience de la dépendance, de la servitude. Et d'une certaine façon, toute vie est un apprentissage de la liberté au sens où il faut au fond l'essentiel c'est de nous libérer de la servitude au maximum pour pouvoir vraiment agir par nous-mêmes. Mais au départ nous sommes incapables d'agir par nous-mêmes. Tous les philosophes qui parlent de la liberté le disent, hein. L'état initial n'est jamais un état de liberté. Nous sommes d'abord soumis, nous sommes d'abord conditionnés, nous sommes d'abord dans les habitudes, dans les préjugés. C'est notre état initial. L'enfance, c'est d'abord la dépendance. Et donc, la liberté est une conquête difficile, en ce sens-là. En ce sens-là. Et on n'en a jamais fini. Puisque nous restons l'enfant que nous avons été. Voilà, vous voyez, c'est tout. Alors là, il y a toute une dialectique. C'est vrai que ce n'est pas une question que j'ai évoquée. Moi, je me suis. Aujourd'hui, mon objectif, c'était de réfléchir sur ce qu'on entend par la liberté. Hein, voilà. En quel sens? Alors évidemment, à partir de là, toutes les questions que vous posez, elles sont tout à fait légitimes, mais elles s'inscrivent, au fond, dans un développement ultérieur, vous voyez? Allez-y, hein.
En fait, vous avez présenté deux réponses inconciliables, la liberté soit un libre arbitre, soit un déterministe, donc il n'y a pas de liberté. Et je me demandais si c'était un entre-deux. Par exemple, si comme déterministe, on prend la société, d'une part, la société détermine les individus, mais d'une part, la société n'a rien sans les individus, et s'il y avait une sorte où les individus créent la société par leur...
Oui. Alors, c'est vrai que j'ai présenté les choses, deux thèses qui sont effectivement inconciliables. C'est vrai que telles qu'elles sont présentées, elles sont inconciliables. Mais le problème qui va se poser, c'est de savoir si le déterminisme est vraiment universel, si c'est un principe qui permet d'expliquer toute la réalité, auquel cas, il est assez difficile de concevoir la liberté. Enfin, on ne voit pas trop bien comment on va la concevoir. Bon, ça, c'est une première chose. Ou alors, est-ce que le déterminisme est toujours partiel ? À ce moment-là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que, si j'ai bien compris, mais peut-être pas bien compris, parce que j'ai pas trop bien entendu, c'est qu'il est, il y a, on est produit, mais en même temps, on peut, à l'inverse, agir sur... On n'est pas uniquement déterminé. On peut, effectivement... On a un pouvoir d'initiative. Sur la base, évidemment, de ce qui nous a été apporté, hein, de ce que nous avons acquis... Mais nous ne sommes pas uniquement et simplement le produit d'un passé. Nous pouvons effectivement reprendre ce passé pour le transformer, pour le changer. Bon, vous voyez, ce genre de réflexion, tout à fait envisageable. Mais à ce moment-là, vous voyez, là encore, c'est vrai que ma réflexion, enfin ce que je vous ai dit ce soir, ne nous permet pas encore bien de penser ce problème-là. Vous voyez ? Mais vous avez raison. À ce moment-là, cette perspective... n'est possible que si on ne conçoit pas un déterminisme absolu. Hein, vous voyez, vous verrez qu'un philosophe comme Spinoza, qui est un déterministe universel, il conçoit la liberté autrement qu'en termes de libre-arbitre. Pour lui, il y a une liberté. Mais la liberté, elle est le fait de pouvoir déployer au maximum sa propre puissance d'agir. Voilà. Et c'est une autre façon d'envisager. Donc c'est vrai que c'est à la lecture des philosophes qu'on va pouvoir peut-être mieux répondre aux questions que vous vous posez. Oui ?
Oui, je ne vais pas me faire des amis, mais... je me demande si le sens...
Bon, déjà, vous torturez les enfants.
Je me demande si le sens de la liberté aujourd'hui, ça ne va pas... à revendiquer le droit à être soi-même incohérent quelque part. Imaginons par exemple que je sois homosexuel et que je dise tiens, je suis libre, je vais épouser un homme, voilà. Et puis j'ajoute, mais nous deux, on est libres et on a décidé de faire un enfant. Et c'est à l'État de prendre sa responsabilité. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit problème là. Est-ce que c'est pas poussé le curseur un petit peu le temps ?
Là, vous vous embarquez dans des dans des questions. Alors, c'est la question une question de droit. Là.
Non, d'accord, mais du sens de la liberté jusqu'à revendiquer le droit à une certaine incohérence.
Pourquoi incohérence ? Ah, ça mériterait, ces questions-là mériteraient vraiment une discussion argumentée assez serrée. Parce que là, c'est très difficile de répondre comme ça à brûle-pourpoint. C'est sûr. Oui, disons qu'il peut y avoir une façon de parler de la liberté en termes de consommation. Ce qui compte, c'est... Je suis libre parce que je choisis Coca-Cola plutôt que Pepsi-Cola, c'est ça que vous voulez dire ? Ou je suis libre parce que je fais ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, j'ai mes impulsions. C'est toujours la même idée de la liberté qui consiste à satisfaire immédiatement ses désirs sans tenir compte finalement de la réalité des choses, des autres. C'est ça que vous voulez dire, non ?
Non, mais c'est un peu comme de dire, par exemple, je suis anglais, je suis très attaché à la France.
Oui.
J'aimerais vivre en France, mais je suis aussi très attaché à la liberté de rouler à gauche. Donc ça va poser un problème.
Oui, c'est pas la même chose. Si je suis anglais, je peux devenir français. Si je suis homosexuel, ce sera difficile de devenir hétérosexuel. Ça n'empêche pas, mais il y a une tendance même affirmée. À moins d'imaginer que c'est une chose à soigner, comme certains. Vous voyez ? Donc, c'est pas. On n'est pas. Enfin bon. Vous voulez dire qu'il faut tenir compte. On n'est pas dans le même cadre. On n'est pas dans le même cadre d'obligation, si vous voulez. Qu'on tienne compte des institutions et des règles d'un pays, c'est une chose. Il n'est pas interdit, quoi qu'on en pense, de considérer qu'on peut accorder aux homosexuels les mêmes droits que ceux qui sont hétérosexuels.
Non, mais là, c'est pas la question, c'est une question disons, de cohérence dans
oui.
Dans la volonté.
Oui. L'incohérence, je ne vois pas. Ça voulait dire qu'effectivement, un enfant est toujours issu d'un père et d'une mère, d'accord, mais c'est pas une question, c'est pas simplement une question biologique, hein. C'est une question aussi de reconnaissance, une question culturelle. Enfin bon.
Oui, c'est complet.
Alors, est-ce que on peut. Oui, peut-être une dernière question.
Montesquieu avait parlé de cette idée des co-effets, c'est-à-dire pourquoi une culture avait décidé de certains nombre de lois et un certain type de lois en fonction de leur histoire, géographie, etc. Je me demandais juste si Montesquieu était plutôt de l'équipe déterministe ou l'équipe.
Ah, bonne question. la prochaine fois. Alors, je vais vous répondre. On peut avoir cette impression, en même temps, il reste dans la problématique traditionnelle de la liberté, de la volonté, au sens. Il est cartésien, par exemple. Disons que pour lui, effectivement, il y a tout de même une différence de nature entre l'homme et puis les bêtes. Mais il tend à montrer que. Le libre arbitre est plutôt un problème. Il existe, mais il est un problème. Alors, on va en discuter. J'ai dû mettre mon truc dessus.
Oui, j'ai vu.